pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Donc, au programme d'aujourd'hui, eh bien, nous recevrons Amélie Rajot, qui a fait la chorégraphie du spectacle Danse, la disparition des choses, qui est présentée à l'Agora de la Danse du 30 mars au 2 avril. Et qui est le chroniqueur d'aujourd'hui? Eh bien, c'est Mathieu Tessier. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Notre conteur, on peut t'appeler conteur maintenant
non,
que tu as décidé
non,
de nous faire des contes un petit peu.
Pas du tout, un mitard.
Alors, pour sa chronique, la toponymie d'un accentué, puis on va le retrouver ensuite à la fin de l'émission, pour le dernier quart d'heure de l'émission, pour faire le jeu des expressions.
La souffrance
jeu auquel
d'Arlette.
Je gagne de plus en plus, c'est un bonheur. Pour l'instant, nous partons avec la chanson de Bon Enfant qui nous chante « Ménage du printemps ».
Ça en passe des choses durant les chansons.
Et voilà, alors nous sommes avec Mathieu. Mathieu, oui. Qu'est-ce que tu nous racontes et où tu nous emmènes?
La semaine dernière, je vous ai mentionné que j'allais vous parler d'une autre légende qui nous vient des îles de la Madeleine.
Et j'adore quand tu nous racontes des histoires.
Bon, ben ça fait plaisir, je suis un peu là pour ça. Je vous ai brièvement mentionné une histoire impliquant une créature de petite taille à la peau dorée. Et non, je ne parle pas, bien sûr... des lapins de Pâques de la compagnie Lint. Bien qu'on se rapproche de plus en plus de la fête de Pâques, fin d'ailleurs qui m'a toujours un peu laissé perplexe, il est de tradition, du moins dans ma famille, comme dans plusieurs autres, d'offrir aux membres de notre famille un lapin de chocolat. Une fois que tout le monde a son lapin, on s'assoit autour de la table, son lapin à la main, et on mord dans le lapin un après l'autre. Il ne faut pas répéter l'endroit où l'autre personne a mordu. Si tu remords les oreilles de ton lapin, tu perds le jeu. C'est un jeu...
Ah, je connaissais pas ce jeu.
Non, ben, pas grand monde qui joue, je pense, à part
nous autres. On m'offrait un lapin en chocolat ou une poule ou autre chose et je la mangeais dans mon coin en partageant avec personne.
Oui, c'est pas pourquoi ça ne me surprend pas. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, en parlant du le lapin, je suis certain que je suis pas le seul qui a cru longtemps que les lapins pondaient des œufs à cause des publicités de Pâques. Non. Il a fallu une intervention de plusieurs adultes rendus à un âge assez avancé pour
Ça craint un peu, Mathieu, mais ce que tu me dis de toi, mais bon.
Quand tu es élevé avec des images de lapins et de cocos de Pâques, naturellement, tu finis par penser que les lapins pondent des œufs. C'est pas vrai.
Mais t'allais quand même dans les bois, à la campagne, t'avais vu les lapins quand même, on a dû t'en parler à l'école. Bon, enfin bref,
c'est pas grave. Je m'égare encore une fois.
La maîtresse de Mathieu, à l'époque, eh bien madame, vous auriez pu faire...
Oui, ils sont plusieurs à avoir essayé, mais nul n'a réussi, en fait. C'est une autre tradition d'ailleurs qui nous vient de l'Allemagne, der Osterhase, parce qu'en fait, en Allemagne, ce n'est pas un lapin, c'est un lièvre. Et moi, à chaque année, je cherche des lièvres en chocolat, mais j'en trouve pas. Donc, j'offre pas de chocolat à ma famille parce que je suis pas capable de respecter les traditions.
Et tu sais qu'on peut le faire avec des poules?
Oui, je sais, mais voilà. Mais de toute façon, je suis pas ici pour vous parler ni de lapin, ni de lièvre, ni même de Pâques, mais bien du nain jaune. Et là, ça devient très important si vous êtes une jeune femme, que vous viviez ou non sur les îles de la Madeleine, de bien m'écouter pendant les prochaines minutes. Les chances d'ailleurs que vous connaissiez cette légende si vous êtes une madelinienne sont très grandes, mais ça pourra aussi concerner toutes celles qui pensent un jour se rendre sur l'île ou sur l'archipel. Je disais donc que cette légende, oh quelle surprise, concerne principalement les jeunes femmes en âge de prendre époux ou épouse, puisqu'on est maintenant rendu en 2022. Et ici, j'aimerais préciser que c'est une légende, ça ne représente en aucun cas le fond de ma pensée ni ma sensibilité. Je ne fais que répéter. Un mythe. Donc, la légende raconte que le nain jaune n'apparaît qu'aux jeunes filles qui sont en âge de prendre époux, ou épouse comme je le disais. Selon les dires des gens qui vivent sur l'île depuis que l'eau y est salée, le nain jaune serait d'une impatience crasse et n'hésiterait pas à faire violence. Et là, je ne parle pas de jouer quelques notes fausses sur un violon désaccordé, je parle vraiment de violence sauvage. Donc, il utiliserait la violence, il ne tient pas ce qu'il désire. Et les plus attentifs et pragmatiques d'entre nous vont se demander, mais que cherche-t-il? Que désire-t-il pour être aussi violent? Que cherche cette terreur napoléonienne? Alors, comme tu sais, Arlette, je suis incapable de ne pas faire de parenthèse. Savais-tu la grandeur de Napoléon? Parce qu'on le dit toujours de petite taille.
1m65.
Ah, t'es pas très... 1m68, c'est quand même pas... C'est pas assez grand pour atteindre l'étagère du haut sans faire de courte échelle.
Comme c'est ma taille, je ne dirais rien.
Voilà, ben c'est pas loin de la mienne non plus. Hein. Mais c'est quand même pas non plus très petit. En fait, là, je ne veux pas non plus digresser parce que la raison pour laquelle je mentionne Napoléon et sa petite taille, c'est que le nain jaune serait de la taille d'un enfant de 5 ans. Donc, que cherche cet enfant, cet être haut de 5 pommes? Je vous le donne en 1000, il cherche l'amour.
Ben, s'il le cherche d'une manière brutale, il risque pas de le trouver.
Il cherche depuis des siècles.
D'accord.
Il cherche celle qui acceptera de l'épouser. C'est des siècles et des siècles qu'il erre à la recherche d'un cœur tendre. On le dit même accompagné parfois d'un animal aux allures d'un lion. Est-ce un lion? Ou un chat, puisqu'il est de petite taille, de loin, on pourrait penser. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas non plus, excusez-moi. Et toutes celles qui ont réussi à se sauver du nain jaune, parce que je vais vous expliquer comment faire un peu plus tard à la fin de la chronique, l'ont décrit comme un être court sur pattes et, comme son nom l'indique, à la peau dorée, tout comme ses dents et ses ongles.
Yeah.
Mais oui, c'est des choses qui arrivent.
Fait pas trop envie, le monsieur.
Non. Puis celles qui ont eu la malchance de le surprendre rôdant sur les berges ont remarqué des pieds palmés. Ils ont celles qui ont réussi ou celles qui firent un face-à-face ont remarqué son long nez et ses oreilles pointues, ce qui a d'ailleurs fait penser aux spécialistes des créatures de cette description que ce serait peut-être un être de la même race des farfadets qui viennent du sud de l'Irlande. Bon. Mais ce qui rend cette créature encore plus étrange, c'est que certaines victimes ont raconté qu'il serait capable de transformer les poils de sa barbe, je dis bien, capable de transformer les poils de sa barbe en un anneau de mariage. Et ainsi fait, se promènerait sur les genoux, tendant la main, promettant richesse, fortune et gloire à toutes celles qui ont eu le malheur de croiser son chemin. On a même perçu dans ses plaintes, qu'il serait même copain-copain avec les rois des mines d'or que l'on trouve en Anatolie. Pour ceux qui cherchent dans leur connaissance générale où se trouve Anatolie, pensez à l'Asie mineure. Et pour ceux qui cherchent encore dans leur connaissance générale, un peu plus éloignée, pensez à la Turquie et vous n'êtes pas très loin de l'Anatolie. Comment est-il arrivé sur les îles? On ne le sait pas. Personne ne sait aussi pourquoi il est si persistant dans sa recherche de l'amour. Mais n'est-il pas comme nous tous, Arlette? Quelqu'un qui cherche un cou à embrasser, une main pour se perdre en chemin, des cheveux pour indiquer d'où vient le vent? Bon, on ne cherche pas tous de la même façon,
certes,
je suis.
Mais
bon.
Pas de cette façon-là, quand même.
Puis pour terminer, je vous ai dit que certaines personnes ont réussi à s'en échapper. Il existe, semble-t-il, un moyen presque infaillible de le faire fuir.
Aha.
Demandez-lui une explication au sujet de la couleur de sa peau. Pourquoi t'as la peau dorée? Semble-t-il que c'est le seul moyen de le faire déguerpir, je ne sais pas pourquoi,
d'accord,
sans subir sa colère. Un autre mystère qui entoure le nain jaune des îles de la Madeleine. Est-ce qu'il ne trouve pas parce qu'il est malfaisant ou il est devenu malfaisant parce qu'il ne trouvait pas? C'est le syndrome de la... C'est le complexe de l'œuf et la poule.
Ben,
le poule
fait,
au chocolat, les œufs au chocolat.
Jeune
on revient.
Fille qui arrive
on revient
au moment de... Au moment du mariage ou de l'envie en tout cas du mariage de le rencontrer et cet être plutôt malfaisant se trouve au bord de l'eau, au bord d'une rive, au bord
partout sur les archipels, c'est quand même plusieurs îles, je pense qu'on n'est jamais très loin de l'eau.
D'accord.
Mais donc soyez prudentes celles qui pensent aller aux îles de la Madeleine
se promener comme ça.
Oui, il y a un nain jaune qui rôde. La
moi, je ne crains plus rien, je ne suis pas une jeune fille.
Bah... Ah oui, mais vous êtes une jeune femme dans l'âme, ma chère Arlette.
J'ai peur qu'ils s'en aperçoivent pas.
Les prochaines chroniques, on va quitter les îles de la Madeleine, on va descendre le Saint-Laurent. Il y a des créatures qui vivent un peu partout dans le bassin, dans ces régions-là.
Alors, je me réjouis parce que j'adore ça, les contes. Merci, Mathieu.
Ça fait plaisir.
On te retrouve en fin d'émission
oui.
pour le jeu.
Oui.
Là, nous partons avec Ariane Moffat qui nous chante « Nature » et tout de suite après ça, on va se retrouver avec Amélie Rajotte. Et voilà, donc nous venons d'entendre Ariane Moffat qui nous chantait Nature. Et maintenant, nous sommes avec Amélie Rajotte. Bonjour Amélie.
Bonjour Arlette.
Ça va bien ?
Oui, ça va, et vous ?
Oui, alors parlons un petit peu de ce spectacle de danse. Oui. Je m'étais noté quand il y a eu l'explication de la disparition des choses, la disparition hypothétique de la nature. Et il y avait quelque chose, où est-ce que je l'ai mis ? J'avais vu un mot tout à l'heure qui m'avait interpellée. Oui, c'était vidéo générative.
Oh,
qu'est-ce que c'est ?
Oui, on peut dire que la disparition des choses, c'est un spectacle interdisciplinaire. Donc, il y a de la danse, il y a du son et il y a de la vidéo en temps réel. Puis, cette vidéo générative, c'est en fait un procédé avec lequel la vidéaste travaille en temps réel, qui va venir trafiquer un peu, en fait, des images réelles de nature, mais qu'elle vient trafiquer et que en fait, ça devient plus abstrait. Donc, mais là, moi, je le dis avec des mots de chorégraphe, hein.
Oui.
Des mots de la spécialiste qui est à côté de moi pour me dire. Mais si ça, c'est, je pourrais dire en gros que c'est ça.
Alors, oui, pardon, j'ai mon chroniqueur qui est là, il m'a interrompu, j'avais la bouche ouverte pour la question parce qu'il allait demander quelque chose. Alors, vas-y, Mathieu.
Je pose la bouche. Elle est avec vous sur scène, elle trafique les images pendant le spectacle?
Oui, en fait, on est, cinq performeurs.
S'il y a des musiciens.
On est deux danseuses interprètes, Marie-Philippe Santerre et moi. Il y a deux performeurs sonores qui font le son en temps réel, Stéphanie Castonguay et Olivier Landry-Gagnon. Mm-hmm. Eux, ils travaillent avec des synthétiseurs modulaires et Stéphanie, elle invente aussi des instruments-là. Elle travaille avec un instrument en particulier qui fait aussi des résonances. Puis, il y a Nelièvre Raja qui est aussi sur scène et qui fait la vidéo en temps réel.
Okay.
Voilà.
Merci.
Ah ben oui, alors là, il y a vraiment tout sur scène. Qu'est-ce qui a entamé ce spectacle-là, la disparition des choses?
Oui, j'ai commencé une collaboration avec Nelièvre Rajotte, la vidéaste, qui est aussi ma sœur. En fait, on est sœurs.
Oui, parce que j'allais dire c'est le même nom.
Oui, c'est ça. Puis on a commencé une collaboration en 2017, puis de là a découlé une première œuvre qui s'appelle « La possibilité d'une tragédie », qui était une œuvre installative, immersive, performative. Il y avait une centaine de plantes sur scène avec une structure amovible et elle faisait du son parce que cette artiste fait aussi du son. Et dans cette pièce, elle faisait du son à partir de l'électricité des plantes et des performeuses.
Mmh. C'est fou, ça.
Passait dans son synthétiseur modulaire et créer de la musique ambiante avec ça. Et suite à cette pièce-là, je me suis dit, et si on évacuait toute la végétation, il n'y a plus rien sur scène à part nous, et la seule présence de la nature est évoquée de manière numérique, par des images, par l'imaginaire des danseuses, par le son, ça évoque la nature, mais ce n'est pas une vraie nature, comme dans la pièce précédente. Donc voilà. L'histoire.
Ah non, mais c'est super intéressant. Puis là, entre Nicolas qui nous fait la technique et Mathieu qui s'occupe aussi de la technique, ils sont très intéressés par ça.
Ah oui, bon, il faut venir nous voir alors. Hein.
C'est
comment
sûr,
vous avez fait ça? Et moi, c'est juste l'histoire et l'explication de tout ça parce que est-ce que vous êtes, vous et votre sœur, très passionné par tout ce qui se passe au niveau de la nature, au niveau de la terre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche beaucoup?
Oui, je pense comme
non, c'est pas tout le monde. Oui, tout le monde dit ah mon Dieu, mais pour des raisons. Alors je m'explique. On a tous peur pour la nature, mais des fois pour des raisons tout à fait personnelles. Parce que je voudrais pas manquer d'eau, parce que je voudrais pas manquer d'air, parce que je voudrais pas ça. Mais moi, je parle d'avoir l'amour de la nature pour la nature, sans penser à soi.
Ben voilà, en fait, c'est ça. C'est surtout une pièce. Tout d'abord, Nelièvre Raja travaille dans sa démarche artistique artistique, le paysage, les paysages grandioses, donc l'humain face au paysage grandiose, la notion de sublime, et elle s'intéresse aussi à la disparition dans sa pratique artistique personnelle, dans ses installations et tout ça. Et moi, de mon côté, je suis fascinée par les comportements humains et surtout ceux en relation avec l'espace. Comment l'espace nous façonne, puis comment on façonne l'espace, cette interrelation-là. Et voilà, on s'est réunis en se disant, ben, je pense qu'on peut joindre nos deux démarches là-dedans parce qu'on a toutes les deux un intérêt pour la nature qui est fort et à des niveaux différents. Mais voilà, on s'est rencontrés là-dedans. Et autre anecdote, moi, c'est ma démarche là, du corps en lien avec la nature est venue suite à la rédaction de mon mémoire. Pendant 3 ans, là, j'étais enfermée dans mon bureau, dans mon petit bureau, à écrire 12 heures par jour. Puis à un moment donné, quand j'ai fini mon mémoire, j'ai eu besoin de me connecter à mon jardin, à mon environnement, à l'espace extérieur. Donc, c'est venu de là. Voilà.
Mais quand vous parlez de distance, est-ce que c'est la distance, par exemple, d'une planète à une autre, ou c'est dans la distance ambiante d'ici sur la Terre?
La distance...
Quand vous parlez que vous vous êtes intéressé plutôt à la... C'est pas mot distance que vous avez pris, mais je l'ai plus en tête.
À la relation à l'espace,
voilà, c'est à
oui,
l'espace. Est-ce que c'est l'espace...
À l'espace, je voulais dire notre environnement.
Ah, d'accord. Parce que quand vous avez dit espace, j'ai pensé planète, et voilà, c'était
mais
pour ça.
Tout se pourrait, hein, dans les... quand je vais continuer à créer, peut-être je vais aller plus loin, là, aussi. On ne sait jamais.
Dans l'écriture, oui, parce que... Il est dit sur vous que votre approche est marquée par des préoccupations philosophiques et par votre fascination pour les comportements humains. Mais les comportements humains, avec tout ce qu'ils ont de bon et de moins bon.
Tout à fait.
Et surtout de super moins bon en ce moment, mais bon, on va dire ça comme ça. Amélie, on va en parler un petit peu plus longtemps, mais là, on va faire une pause, une chanson. Ensuite, un petit peu de pub, puis on vous revient tout de suite après. D'accord ?
Très bien,
pour continuer.
À tout de suite.
Alors, réfléchissez parce que je vais vous poser des questions là-dessus encore.
Très bien.
À tout de suite.
Je suis prête.
Alors, allons-y. Donc, tu attendais, Nicolas, que je nomme la chanson qu'on va entendre. Donc, il faut que je reprenne. C'est Stéphanie Boulet qui nous chante. Printemps. D'ailleurs, nous y sommes. Ça y est, c'est le deuxième jour du printemps.
On sera douce comme le printemps. On sera vibrante comme le dégel. On arrachera la peau du serpent. À la fois vulnérable et immortel. On marchera le dos face au vent, souvent tenant tête à la boussole, et s'ouvriront les portes et les battants pour libérer les voiles qu'elles s'envolent. On se fera le miroir de et si rien ne dure pour toujours, on se donnera le devoir de naître et de renaître chaque jour. On se tiendra debout, même en rampant. On sera porte-voix de nos tristesses. Nos refus seront beaux comme des serments et nos coudes joueront comme des caresses. Nos rires brilleront comme des diamants, nos larmes couleront dans les rivières. On sera tout visage en même temps, à la fois improbable et ordinaire. On se fait Et si rien ne dure pour toujours, on se donnera le devoir de naître et de renaître chaque jour. On construira des villes à nos enfants où ils apprendront comment on aime. On sera la déesse et la maman et on partagera ce que l'on s'aime. On se fera le miroir de l'être, même si rien ne dure pour toujours. On se donnera le devoir de naître et de renaître chaque jour et de renaître chaque jour.
Alors restez avec nous parce que dans un instant on va retrouver on va retrouver Amélie Rajotte qui va continuer à nous parler du corps de la danse et de tout ce qui va se passer bientôt à l'Agora de la danse. Alors soyez avec nous, on se retrouve dans un instant.
Connecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Thank you.
Alors, on vient d'écouter Bonds qui nous chantait Electric Love. Et maintenant, on se retrouve avec Amélie Rajotte. Amélie?
Oui, bonjour.
Bon, alors, toujours avec nous. Alors, Amélie, alors, on parlait bien sûr du monde et de la fascination pour les êtres. Je suis pas sûre d'être fascinée par tout le monde, mais bref. On va en revenir. Par contre, dans le texte qui nous a envoyé en parlant d'Amélie Rajotte, on dit elle s'intéresse. J'aimerais ça que tu m'expliques. Elle s'intéresse aux archives corporelles et au potentiel plastique du corps en interaction avec son environnement. Alors je comprends que c'est la façon dont on se déplace ou dont on bouge, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière cette phrase-là?
Je pense que ce qui me fascine surtout, c'est comment la capacité de l'humain à s'adapter, à se transformer face à son environnement. C'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, qu'on soit capable de se façonner, que le corps soit capable de se façonner, se transformer, changer. Tout dépend des personnes, hein. Il y a des gens qui ils sont peut-être moins amenés à cela. Mais moi, je l'ai vécu dans ma vie à plusieurs reprises. Et j'étais, ça m'a toujours fascinée. Et je me dis, c'est au centre de ma démarche à cause de cela.
Que face à une situation donnée, on ait des capacités qu'on n'aurait peut-être pas imaginées parce qu'on ne les a jamais sollicitées. Il y a ça aussi.
Voilà. Mmh. Puis le corps est rempli de fiction, hein.
Ah oui.
C'est ça. Il y a la mémoire sensorielle, musculaire, tout ça.
Oui, c'est vrai.
Mais cette mémoire-là, même quand on se rappelle de quelque chose, on est déjà en train de la transformer. Cette mémoire-là n'est pas vraie. Ce sont des fictions, en fait. On raconte une histoire qu'on a vécue il y a quelques années, puis on dit « Ah oui, mais c'est déjà plus vrai. »
Oui,
on
c'est
déjà
vrai.
Transformé. Et il y a ça aussi.
On la voit avec nos lunettes du moment.
Oui. Fait que pour moi, c'est ça. Le corps est en éternelle transformation, mutation, même si c'est tout petit parfois, mais c'est ça. Fait que
D'accord.
Je suis fascinée par ce corps qui est plein de fiction.
Amélie est pleine de fascination, c'est merveilleux. Ce qui donne plein de choses à nous offrir. Merci beaucoup. Mathieu, tu avais une question pour Amélie.
En fait, je me demandais juste comment on commence à créer une chorégraphie. Parce que clairement, l'idée est réfléchie. Il y a un propos derrière le spectacle, mais par quoi on commence quand on veut raconter l'histoire que vous avez mis en spectacle?
Oui, concrètement, comment on fait dans le studio?
Est-ce que vous prenez des notes, par exemple? Est-ce que tu as un calepin dans lequel tu dessines des bonhommes allumettes? Tu dis là, j'aimerais bien...
J'aimerais savoir ça. J'ai des milliers de cahiers, comme plusieurs personnes, plusieurs chorégraphes, j'imagine. J'ai des milliers de cahiers dans lesquels je note. Parfois, je ne suis pas capable de me relire, mais je note quand même. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe en studio? Ça dépend des chorégraphes, puis ça dépend pour moi, personnellement, des chorégraphies. Là. Chaque création, je repasse. J'ai pas un mode de fonctionnement particulier, mais celle-là, on est parti des gestes qu'il y avait dans la pièce précédente. Vous vous souvenez, je vous disais, l'œuvre installative où les deux performeuses danseuses travaillaient la terre, en fait, arrachaient les plantes, les replantaient, touchaient les plantes, tout ça, les déplaçaient, creusaient la terre, poussaient. Bon, tous ces verbes liés au contact avec la nature dans un jardin, on est parti de ces gestes-là, du arracher, creuser, glisser, puis toucher différentes surfaces, mais dans la dispersion des choses, ces surfaces-là, ces matières-là sont invisibles, elles sont dans notre imaginaire, dans notre souvenir, notre mémoire qui est incertaine, hein, mais on les cherche, voilà. Puis c'est comme ça que c'est parti, peu à peu, on a revisité tous ces gestes-là, puis on les a... du geste le plus biomécanique, là, tout simple, revoir qu'est-ce qui se passe dans ma main quand j'arrache, qu'est-ce que mes doigts font, qu'est-ce que mes muscles, c'est quoi la tension, tout ça. On est allé vraiment là-dedans, tu sais, et sinon, jusqu'à leur pleine possibilités poétiques. Donc, si j'arrache le plafond vers le plafond, si j'ajoute mon corps dans certaines positions, ça amplifie en fait tous ces gestes-là. Puis on reconnaît plus nécessairement le verbe arracher de départ, mais on en vient à le arracher devient les mains deviennent à un moment donné corps racine, main racine. Donc j'aime bien ces parallèles-là, tu sais. Quand on amplifie un geste tout banal quotidien, mais voilà, on le transforme à l'aide des différents paramètres du mouvement, l'amplitude, la tension musculaire, la durée, le temps, voilà.
Est-ce qu'il y a des gestes dans le spectacle présent que vous auriez envie de... que tu auras envie d'explorer? Est-ce que tu es dans un cycle de création? Est-ce que tu penses en faire... ou explorer, faire une suite.
Suivre un petit peu plus loin encore.
Est-ce que pendant que tu fais un spectacle, tu as des gestes que tu dis, ah, celui-là, c'est sûr que si j'ai pas la possibilité de l'explorer dans ce spectacle-là, je l'explorerai ailleurs.
Oui, ben en fait, c'est ça qui est arrivé avec cette œuvre-là. C'est dans la possibilité d'une tragédie. Tous ces gestes-là étaient vraiment... dans le concret, hein. Il y avait de la matière, de la vraie matière à pousser, tout ça. Puis je trouvais à la fin, je me disais, ah non, j'ai besoin d'aller plus loin. Et de là est venue la dispersion des choses. Ça continue. Il y a d'autres... maintenant, je suis déjà sur une autre œuvre. Je ne vais rien dévoiler parce que c'est un embryon, mais j'ai déjà un éventail de gestes que j'aimerais explorer. Voilà.
Parce que là, quand tu décris les mouvements, c'est vraiment... je ne sais pas pourquoi je fais le lien avec ça, mais je fais le lien avec les deux années qu'on vient de passer, c'est-à-dire arriver à se regarder vivre, ce qu'on ne faisait plus ou ce qu'on ne faisait pas. Et là, c'est comme prendre le temps de regarder la main qui arrache la terre, qui se dirige vers le ciel et puis la terre qui retombe. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là me mettent plein d'images dans la tête.
Ah ben c'est super, ben c'est vraiment ça le but de la pièce. C'est nous ce qu'on veut. Bon, on vient une expérience, hein, on traverse plusieurs paysages chorégraphiques, c'est un voyage. Puis ce que je veux, c'est que le spectateur, moi je veux pas aller chercher son intellect, je veux vraiment qu'il soit dans l'expérience aussi.
Oui, la sensation.
Sensorielle. Oui.
C'est pas narratif là.
C'est ça, tu sais, puis c'est le travail de la main là, c'est direct connecté aux sensations, autant pour nous que pour celui qui regarde. Hein. Quand on regarde quelqu'un caresser une matière, tout ça, on est capable de le ressentir, même si nous, on le fait pas.
Oui.
Donc voilà, c'est ça que je veux que le spectateur aussi voit ses propres images.
Et puis prenne, grâce à tes yeux et à vos yeux, à toutes les deux sur la scène, à tous ceux qui seront sur la scène, c'est la manière de prendre le temps de regarder, ce qui pourrait être un mouvement pour nous, mais qui nous est offert par d'autres, en face, comme un reflet, tu sais, comme un reflet miroir.
Voilà.
Est-ce que c'est une création de 2022 ou c'est un spectacle qui était prévu avant?
C'est un spectacle prévu avant.
Okay.
Et en fait, la pièce, elle a commencé la recherche en 2018.
Oh, wow.
Puis... entre-temps, on s'est arrêté parce qu'il y a eu l'autre pièce. On a créé l'autre œuvre.
Okay.
Puis après, j'ai eu un congé maternité. Et après, il y a eu une
félicitations!
merci. Félicitations. Il y a déjà 3 ans. Mais c'est ça. Et là, il y a eu la pandémie. On a reporté deux ou trois fois le spectacle. Donc, ça date. Hein, ça fait presque 3 ans.
Et ben là...
même 4. Non, ça fait presque 4 ans, en fait. Puis,
là, il n'y a plus que 8 jours. On arrive à la fin de cette entrevue. Donc, on va dire que c'est du 30 mars au 2 avril à l'Agora de la Danse. Donc, le 30 mars, c'est dans 8 jours. Et puis, merci beaucoup, Amélie Rajotte, parce que ça a été un plaisir de t'avoir avec
merci
nous.
Merci à vous.
Moi, j'y vais.
Merci.
Voilà.
Oh,
donc, voilà. Aussi, normalement.
Ben, au plaisir de vous y voir.
OK. Au revoir, merci.
Au revoir.
Alors, on part avec Bertrand Belin, qui nous chante sur le cul.
Il y avait un homme ce matin, comme hier, d'ailleurs. Il y avait un homme ce matin sur le cul. Il y avait un homme ce matin ainsi qu'une femme sur le cul. Comme hier d'ailleurs. Il y avait 10 hommes ce matin, ainsi que 10 femmes sur le cul, des enfants couraient mignons après les pigeons qui s'envolaient. Se reposait, s'envolait. Comme hier d'ailleurs. Puis se reposait. Il y avait 100 hommes ce matin, ainsi que 110 femmes sur le cul.
Et voilà, donc maintenant nous revenons avec Mathieu Tessier. Bon, c'est pas de la danse, mais ça va être la danse des mots. Hein?
Oh, oh, allez, flattez-moi, j'attendais mon
que
blaze.
Tu fasses.
Flattez-moi.
Oh, flattez-moi, mon bon blaze. Je vous flatte. Mathieu Tessier,
oui,
le jeu. Nicolas, ne t'endors pas, s'il te plaît, pendant que Mathieu nous enivre de mots dont on ne sait même pas tout ce que ça veut dire. Mais
j'ai vu mettre son casque, s'approcher du micro, et je pense qu'il était prêt.
Il est prêt. Ouais, bon, voilà. Alors, on t'écoute.
Première expression de la journée, ma chère Arlette, ainsi que Nick. Au roll-cutter.
J'ai comme une idée, je ne l'ai pas entendu spécialement, mais j'ai comme une idée de ce que ça peut vouloir dire.
Moi, je sais, moi, je connais l'expression le cutter.
Tes explications.
Le cutter. Je suis pas sûr si c'est la même chose.
Oral cutter. Les yeux bleus de mon grand-père n'en revenaient pas, même à son âge avancé, qu'en bordure de route, il y ait autant de trottoirs. Voilà. Est-ce une tranche mince d'un jambon parfumé au sirop de poteau, poteau n'ayant communiqué que de bonnes nouvelles? Ou C, passer chez le barbier ou le coiffeur sans rendez-vous et repartir avec les cheveux plus courts qu'une canine sans calcium?
Ben, je pencherais pour la 3.
C'est la 1.
Oh, il est en feu, il était...
Ah, ouais, non, c'est,
la c'est exactement 1. L'expression que je pensais. Oui, j'ai appris ça dans le fond, dans mes études à Jonquière, le cutter. J'avais aucune idée c'était quoi, je sais pas comment l'expliquer.
D'accord.
Bon, mais je comprends.
Alors, petite plantade.
Une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est ma moyenne. Prendre une doc. Mm-hmm. L'expression prendre une doc. Se tremper le bout du dans de l'eau savonneuse ou non. Parfois, lors d'une panne de courant, il vaut mieux boire sa bière tiède avec des voisins de ruelle plutôt que de la boire tout seul. Ou C, lorsque la mélancolie vous berce le méridien, Il vaut parfois mieux fumer une cigarette et, même si vous êtes accosté au pied de l'horloge, regardez vers l'avenir.
Fichtre!
La
fichtre.
Face Arlette!
Alors, je vais y aller pour la 2.
Tu veux me répéter la 1?
Prendre une doc, se tremper le bout du dans de l'eau, savonneuse ou non?
Non. Et la 2, c'est quoi? Déjà?
La 2, c'est parfois lors d'une panne de courant, il vaut mieux boire sa bière tiède avec des voisins de ruelle plutôt que de la boire tout seul.
Ouais, c'est vrai que la 2 serait la plus sympa, mais la 3 aussi, je sais pas. Toi, tu dis la 2?
Moi, je dirais la 2.
Bon, non, allez. Moi, je vais prendre la 3.
Oui, c'est plonger. En fait, non, c'est pas vrai, c'est la première.
C'est la première?
C'est de se tremper l'eau dans... de se tremper le corps dans de l'eau. C'est prendre une
plongée. Ah, mais quand
plongée.
Tu dis le, moi, j'ai eu une idée plus particulière de, d'endroit
oui,
du corps.
Oui, j'ai mis deux, trois petits points dans mon texte pour ne
ah,
pas...
Si tu, si tu nous avais pas trompé sur la marchandise, t'avais dit tremper le corps, là, j'aurais dit un.
Ben justement, parlant de marchandise, t'as la fly ouverte?
Ah, ben oui!
Ah, ça, ah, ouais? Tu connais, toi.
Est-ce... Ah! Ta fermeture éclair est ouverte, ton magasin est ouvert, mais je ne vois rien qui m'intéresse.
Oui.
Ou B, respirer par la bouche quand tu roules en campagne et qu'ils viennent détendre ou dépendre, ça dépend des régions. Ou c'est l'ouverture de la guérite afin d'accéder à l'avion qui t'amènera à tes vacances à Acapulco.
Mais non, mais c'est la une. Non?
Oui. Ouais, c'est quand même... C'est quand même facile.
Non, hein. Nous, on parle de garage, de porte de garage, mais c'est pareil, quoi.
Vous parlez de porte de garage
ouais.
En France?
Oui.
C'est vrai que les rues sont plus petites. Vous avez besoin d'endroits pour mettre votre voiture. Je m'en vais faire la shop.
Je m'en vais faire la shop. Oui, ben, j'ai une idée vague, alors vas-y.
Le divertissement télévisuel est parfois très demandant sur la partie périphérique externe de certains de mes organes. Ce qui fait que je dois parfois sortir prendre l'air.
D'accord.
J'ai faim, puis j'ai rien à bouffer, sinon des cocombes farcies à la pénicilline, des tranches de pain rancies. Ah, non, c'est pas des morceaux de pain, c'est des saucisses vraiment, vraiment passées date. C'est décidé, il faut que je remplisse mon réfrigérateur de biens comestibles. Ou c'est le temps qu'il faut à une bille pour traverser le plancher de marbre d'une institution financière est sensiblement le même que pour une bouteille de 7-Up à perdre son gaz. Et pour le savoir, ben, il faut faire des recherches, il faut faire la shop.
C'est la 2.
Je vais aller avec la 2, mais j'en ai vraiment aucune nez.
Ben si, c'est la 2, c'est aller faire des courses.
Ouais.
Pour moi, une shop, c'est une shop de bière.
Ah, voilà le buveur. Ben, moi, une shop, c'est un magasin où tu vas t'acheter quelque chose à manger.
Bon, les enfants,
ça,
on
toute
on
la calme. Différence entre nous.
J'ai les cannes blanches.
Une petite dernière, oui.
Une petite dernière, oui. J'ai froid aux pieds, surtout ceux de devant. Non, d'accord. Vous avez le teint pâle. Il faut d'abord penser à bien nettoyer votre peau avant de l'hydrater avec votre crème habituelle. Ou mieux encore, utilisez une crème bébé, comme celle de la gamme Carmel, qui tient lieu d'hydratant teinté et qui agit aussi comme base de maquillage. C'est le bon moment d'ailleurs pour camoufler les petites imperfections, là. Les cernes qui peuvent être estompées à l'aide de bâtons correcteurs.
Et ma main sur ta face.
Et ma main. Ou là... c'est... La canne de Jeanne, elle est morte au Guilan Neuf. Elle avait fait la veille un œuf. La canne de Jeanne est morte d'avoir fait, du moins on le présume, un rhume mauvais. La canne de Jeanne est morte sur son œuf et dans son beau costume de plumes tout neuf. La canne de Jeanne, ne laissant pas de veuf, c'est nous autres qui hûmes les plumes et l'œuf. Et tous, toutes, sans doute, garderont longtemps le souvenir de la canne de Jeanne mort bleu.
Oh là là là, ça, il nous fait une Brassens. Chanson. Oui.
Non, mais pour la, ceux qui...
La une.
Non.
La trois.
Les blanches.
La deux.
Oui.
Ah.
Quand tu dis que t'as les cannes blanches et que t'as les jambes très pâles, donc tu dois t'exposer un peu plus souvent au soleil.
Ah,
sinon,
d'accord.
Sinon, tu utilises
du maquillage. Moi, je m'excuse. Il n'y a encore pas assez de soleil pour que je mette mes jambes à l'air.
Mais
donc
non, mais
j'y ai même pas pensé.
Il y a du soleil à tous les jours, Arlette. Faut juste
oui, mais dehors, il fait fait tant de temps.
Là, c'est correct, bon. Le prêt arrive.
Alors, on a passé deux jours déjà, donc on va voir. Il paraît qu'il va faire froid comme ça toute la semaine. Mais bref, ne jouons pas les oiseaux de mauvais augure. On part en musique, Nicolas ? Alors, on part en musique avec Petit Béliveau qui nous chante « Je file comme un alien
». Tout le monde part assurer. Oh, ça me tend du
Voici, oulala, Mathieu chante. Nous voici à la fin de cette émission et Mathieu chante. Mmh. Alors,
c'est le chant
comme,
du signe.
Comme on va vous quitter, ben vous pouvez éteindre, mais moi je ne peux pas, je suis obligée de le garder à côté de moi. Sur ce, merci à Amélie Rajotte, merci Mathieu Tessier, merci Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Et puis surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée, puis on se dit à demain, Nicolas. Et toi, à la semaine prochaine, Mathieu.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relèches moutardes puis le liqueur.
Et surtout, à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.